Vous écoutez bien Radio France Internationale, midi et demi en temps universel. Une heure de plus ici à Paris, c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. La situation dans l'est de la RDC, elle devait être évoquée ce vendredi au Zimbabwe par les ministres des Affaires étrangères de la Communauté d'Afrique de l'Est et celle de l'Afrique australe. Mais selon nos informations, ce rendez-vous clé n'aura pas lieu aujourd'hui. Le représentant de l'Union européenne pour les Grands Lacs, lui, était hier à Kigali où il a rencontré James Kabarebe, l'ancien chef de l'armée rwandaise, aujourd'hui ministre de la coopération régionale, visé par des sanctions du Trésor américain pour son rôle dans la guerre en RDC. Un compromis cette nuit à la COP16 sur la biodiversité. Les délégués de plus de 150 pays présents à Rome ont adopté une feuille de route de 5 ans pour augmenter les financements. Nous reviendrons aussi sur l'annonce du démantèlement d'un réseau d'exportation frauduleuse de cacao en Côte d'Ivoire. 6 conteneurs de cacao ont été saisis. Ils étaient déclarés comme transportants de l'EVA. Quelle est l'ampleur du trafic? Séraphin Prao-Yao, maître de conférence en économie à l'université Alassane Ouattara de Boaké, est notre invité. Et puis les sports, Hugues Fabrice Zongo ce soir au meeting de Madrid. Première compétition depuis septembre pour le triple sauteur burkinabé qui arrêtera sans doute sa carrière à la fin de cette année. Au Rwanda, le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs était hier en visite. Lucie Mouillon vous retrouve en direct de Kigali. L'envoyé spécial de Bruxelles a rencontré le général à la retraite et aujourd'hui ministre d'État, James Kabarebe.
Oui, dans un communiqué, Kigali parle d'un échange franc entre l'ambassadeur Johan Borgstam et le ministre d'État de la coopération régionale James Kabarebe, récemment visé par des sanctions du Trésor américain, qu'il accuse d'avoir un rôle central dans le soutien du Rwanda au groupe armé du M23. Dans ces discussions, Kigali affirme avoir soulevé plusieurs points, parmi eux les garanties de sécurité que le gouvernement exige, notamment le retrait de toutes les forces étrangères le long de sa frontière, la neutralité des FDLR et la résolution de la question du M23. Le Rwanda demande depuis plusieurs mois la mise en place d'un dialogue direct entre les rebelles et Kinshasa. Les mesures punitives qui portent atteinte aux droits des pays ciblés ne résolvent rien, affirme Kigali. Mais du côté de l'Union européenne, aucune communication sur cette rencontre n'a pour l'instant été partagée. Après une première série de mesures contre le Rwanda mises en place par les 27 ce lundi, le Luxembourg a exercé son droit de veto mardi sur de nouvelles sanctions dans l'attente de l'évolution des négociations régionales entre la Communauté d'Afrique de l'Est et la SADC, la Communauté de Développement d'Afrique australe.
Lucie Mouillot, en direct de Kigali, les ministres des Affaires étrangères de la SADC et ceux de l'EAC, la Communauté de l'Afrique de l'Est, avaient justement rendez-vous ce vendredi à Harare, au Zimbabwe. Mais voilà qu'on apprend que cette réunion présentée comme cruciale dans le processus de désescalade entre Kinshasa et Kigali n'aura pas lieu aujourd'hui, Patient Ligodi.
Les sources diplomatiques contactées par RFI sont catégoriques. Aucune réunion ne se tiendra aujourd'hui. Du côté de la délégation rwandaise, on affirme ne pas avoir reçu d'invitation de la part du ministère des Affaires étrangères du Zimbabwe, pays hôte de cette rencontre. D'autres délégations attendues à Harare n'ont pas fait le déplacement non plus. À Kinshasa, l'information circule peu. Toutefois, les autorités congolaises confirment le report de la réunion prévue. Alors, pourquoi ce report? Les raisons exactes restent inconnues à ces stades. Plusieurs hypothèses sont évoquées, dont des divergences persistantes entre les parties prenantes. Cette rencontre revêt une importance stratégique. Elle doit notamment évaluer et analyser les rapports des chefs d'état-major des armées de la région, élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des décisions prises par les chefs d'État, notamment sur le plan du dialogue politique, définir éventuellement un chronogramme des prochaines étapes du processus diplomatique. Mais le contexte reste particulièrement sensible. Les positions des principaux acteurs demeurent à ces stades opposées. Kinshasa insiste sur un dialogue direct avec Kigali. Kigali, de son côté, réclame une négociation entre Kinshasa et l'AFC M23, une option fermement rejetée par Félix Tshisekedi. Selon certaines sources, une nouvelle date est envisagée entre le 1er et le 3 mars, mais pour l'instant, aucune invitation officielle n'a été envoyée.
Jean-Pierre Lacroix, le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de maintien de paix. Lui est en visite à Kinshasa. Hier, il a rencontré la première ministre, puis le président Félix Tshisekedi au palais présidentiel. Il est attendu à présent à Beni, dans l'est de la RDC, où il doit notamment s'entretenir avec les autorités militaires de la province du Nord Kivu, délocalisée depuis que Goma est passée sous contrôle de la FCM-23. Coralie Pierret, vous êtes en direct de Kinshasa. Quel est l'objectif de cette visite?
Alors, l'objectif de cette visite, c'est travailler sur le comment. Comment mettre en œuvre la résolution 2773 adoptée en Conseil de sécurité de l'ONU le 21 février, une résolution qui menace de nouvelles sanctions, qui demande le retrait du M23 soutenu par le Rwanda, retrait de Goma, de Bukavu et de toutes les zones contrôlées, ainsi que le démantèlement des administrations parallèles. De nombreux casques bleus de l'ONU sont toujours présents dans leur base à Goma depuis que la ville est passée sous contrôle du M23 fin janvier. Dans ces bases où sont réfugiés plus de 1400 personnes, dont la majorité sont des soldats congolais coincés sans possibilité d'évacuer. Du côté de la présidence, on insiste pour un renforcement de la mission de maintien de la paix, la MONUSCO, en hommes et en mandat, particulièrement dans des zones dites sensibles. L'année dernière, la MONUSCO s'était, sur demande de Kinshasa, retirée du sud Kivu, province dans laquelle le M23 a fait une percée depuis mi-février. Un retrait progressif de la MONUSCO qui s'était aussi enclenché pour la province du Nord Kivu. Le Nord Kivu où doit se rendre Jean-Pierre Lacroix. Il est attendu à Beni où ont été délocalisés le gouverneur militaire et son équipe. À Beni, la base de la MONUSCO avait évacué une partie de ses civils après la prise de Goma. Mais les casques bleus sont toujours présents, notamment à l'aéroport qui est aussi la base logistique de la MONUSCO.
Coralie Pierret, envoyée spéciale de RFI à Kinshasa. C'est un succès qui n'était pas gagné d'avance après les blocages nord-sud qui avaient poussé à sa suspension à Cali en Colombie il y a quelques mois. La COP16 biodiversité qui avait repris en début de semaine à Rome est parvenue cette nuit à un compromis. Les délégués de plus de 150 pays présents ont adopté une feuille de route de 5 ans. Une feuille de route pour augmenter les financements, pour stopper l'effondrement des espèces de plantes et d'animaux et la destruction des écosystèmes par les activités humaines. Lucille Gimbert, on vous retrouve en direct de Rome où vous avez suivi cette prolongation des discussions. Quel bilan au final tiré de cette COP16 biodiversité pour le continent africain ?
Nous croyons au multilatéralisme et l'avons montré par beaucoup de sacrifices en pensant aux générations futures. C'est ainsi qu'a réagi en plénière cette nuit à Rome le négociateur du Sénégal et président du groupe Afrique à la COP biodiversité où c'est nous cassé. Tout comme les Occidentaux ont dû céder du terrain, les pays africains ont fait des concessions pour parvenir à cet accord sur un plan de travail de 5 ans pour tenter d'augmenter l'argent public, privé, international et national à destination des projets de préservation et de restauration de la nature. L'objectif fixé par l'accord de Kunming-Montréal est d'atteindre 200 milliards par an d'ici 2030. C'est en dessous des besoins estimés par les scientifiques et on en est encore bien loin. Les délégués du continent et notamment ceux de la RDC défendaient la création dès aujourd'hui d'un nouveau fonds consacré à la biodiversité sous l'autorité de la COP, comme le prévoit la Convention des Nations Unies pour la diversité biologique depuis 1992. Ils devront finalement patienter. Le choix de créer ce fonds nouveau ou bien d'en adopter un existant sera fait, mais après plusieurs années d'évaluation des outils financiers actuels et après l'établissement des améliorations souhaitées par la communauté internationale.
Lucille Gimbert, envoyée spéciale de RFI à Rome. Pas de déclaration commune, en revanche, à l'issue du G20 Finance qui se tenait ces deux derniers jours au Cap en Afrique du Sud. La rencontre a surtout brillé par l'absence des ministres américains, mais aussi chinois ou japonais, Valentin Hugues.
L'Afrique du Sud, très fière d'être le premier pays d'Afrique à présider le G20, attendait beaucoup de cette réunion, mais au bout du compte, impossible d'aboutir à une déclaration commune. Les tensions diplomatiques grandissantes et l'absence de certains ministres autour de la table laissaient déjà à penser que parler d'une seule et même voix ne serait pas chose facile. Pas de ministre des finances chinois, indien ou encore américain. Les États-Unis prendront pourtant la relève de cette présidence du G20 après l'Afrique du Sud, mais c'est déjà la deuxième réunion qu'il manque après celle des ministres des Affaires étrangères la semaine dernière. Alors au Cap, ces deux jours ont tout de même permis de mettre quelques sujets prioritaires sur la table, l'importance de la collaboration dans la lutte contre le changement climatique ou l'engagement contre le protectionnisme. Et d'après le ministre sud-africain Enoch Godongwana, la plupart des pays ont approuvé leur feuille de route. Mais il a aussi reconnu qu'il n'était pas très heureux de ne pas pouvoir présenter une déclaration signée par tous après deux jours d'échange, rappelant que les tensions diplomatiques sont des freins aux objectifs du G20. Valentin Hugues, Le Cap, RFI.
Au Tchad, il y a un an jour pour jour, le 28 février 2024, l'opposant Yahya Diallo trouvait la mort dans un assaut de l'armée contre le siège de son parti. Président du PSF, le Parti Socialiste Sans Frontières, cousin du président Mahamat Idriss Déby Itno, Yahya Diallo était accusé d'avoir mené la veille de sa mort une attaque contre les locaux des services de renseignement. Les autorités avaient annoncé qu'il avait succombé dans un échange de tirs, mais ses proches continuent à dénoncer un assassinat et à exiger la libération du secrétaire général du PSF arrêté depuis 6 mois. Halifa Youssouf Mahamat est le coordonnateur général de la diaspora au PSF.
Yahya Diallo Diroubeti s'est levé contre l'oppression et l'injustice même au péril de sa vie, puisque son engagement politique fondé sur une quête inlassable de liberté, d'égalité, de justice et d'équité lui a valu d'être la cible d'un pouvoir militaire qui refuse toute contestation. Concernant l'enquête annoncée par le gouvernement militaire sur son assassinat, à ce jour, reste sans suite. C'est une déclaration trompeuse pour endormir la conscience de ceux qui se battent pour la justice de cette figure emblématique. Mais toutefois, le Parti Socialiste Sans Frontières a porté plainte devant la Cour pénale internationale. Concernant l'enlèvement de notre camarade le secrétaire général Gam Robert, incarcéré injustement dans les geôles des services de renseignement, reste flou. Ce qui est vraiment scandalé et inadmissible, les pouvoirs militaires refusent toute explication officielle. Donc, nous exigeons la libération de Gam Robert avec des enquêtes crédibles et transparentes.
Propos recueillis par Olivier Monodji, notre correspondant à N'Djamena. Aujourd'hui, la famille de Yahya Diallo annonce saisir la justice française, les Nations Unies et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples afin que la lumière soit faite sur cet assassinat et que les responsables rendent des comptes. Les autorités de N'Djamena, de leur côté, assurent que la justice fait son travail et qu'elle regrette la mort de Yahya Diallo. Gassim Chérif Mahamat est le porte-parole du gouvernement tchadien.
C'était une situation déplorable qu'on en arrive à la mort d'un chef de parti politique. Mais il faut aussi préciser que c'était dans un contexte où il ne se comportait pas comme un chef de parti politique lambda. Il s'est attaqué aux institutions de l'État et l'État n'a fait que répliquer pour rétablir l'ordre constitutionnel, l'ordre institutionnel. Vous vous souvenez, il avait attaqué le siège de l'Agence nationale de sécurité, l'ANS, et ça c'est la première séquence qui a conduit à la mort de Yahya Diallo. Concernant la justice, le gouvernement mettra en œuvre tout ce qu'il faut pour que la justice se fasse dans de bonnes conditions. Mais pour le moment, la justice, elle est saisie par les parties prenantes, c'est-à-dire le parti politique du défunt Yahya Diallo. Je comprends que les familles peuvent s'impatienter. La justice va faire son travail.
Une commission d'enquête pourrait être mise en place?
Tout à fait. Une commission d'enquête va se mettre en place. C'est au niveau du ministère de la Justice. Elle va se mettre en place avec les différents acteurs. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est déjà en cours.
Des propos recueillis par Guillaume Thibault. Il est 13h43, N'Djamena.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, une rencontre gouvernement, patronat, syndicat hier au Sénégal. Objectif, rendre du souffle au dialogue social sur fond de grogne. Et puis les sports, on prendra des nouvelles du triple sauteur burkinabé Hugues Fabrice Zango. Il est ce soir au meeting de Madrid en Espagne pour sa première compétition de la saison. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce vendredi, en Namibie, la Cour suprême rejette le recours du principal parti d'opposition contre les résultats de l'élection présidentielle. La Cour confirme par la même occasion la victoire de Netumbo Nandi Ndaitwa, 72 ans, candidate de la SWAPO au pouvoir depuis l'indépendance. Il s'agit de la première femme à être élue présidente de la Namibie. Mais l'élection du 27 novembre, on s'en souvient, avait provoqué de fortes contestations. Elle avait dû être prolongée à 2 reprises pour de nombreux problèmes de logistique et notamment une pénurie de bulletins de vote. La grogne sociale au Sénégal, des grèves éclatent depuis le début de l'année dans le secteur de l'enseignement supérieur ou celui de la santé, et la menace d'une grève générale est dans l'air. Le Premier ministre Ousmane Sonko organisait hier à Dakar une rencontre tripartite, gouvernement, syndicat, patronat. pour redonner du souffle au dialogue social, Gwendal Lavina.
Pendant 3 heures, syndicalistes, patrons et ministres se succèdent à la tribune pour établir le diagnostic de la crise que traverse le Sénégal et formuler leurs demandes. Après avoir écouté tout le monde, le Premier ministre Ousmane Sonko prend la parole.
Il faut qu'on s'entende sur un consensus. Parce qu'aucun pays n'a décollé sans consensus fort. Et c'est pourquoi j'avais tenu à ce format. Tout le système social, la protection des travailleurs, le nouveau code du travail, la justice et l'équité dans les systèmes de rémunération. On va y travailler ensemble. Mais c'est un construit, ça ne tombe pas du ciel. Et ça, nous voulons le faire en toute transparence.
À la sortie, la satisfaction d'Elimane Diouf, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes.
C'est quand même plus rassurant que ce qu'on avait entendu dans la déclaration au niveau de l'Assemblée et dans les autres déclarations. Il y a une ouverture, une volonté de faire un discours de vérité. Et nous, centrales syndicales, notre credo, c'est de dialoguer et de trouver des solutions.
Côté patronat, Pierre Goudiabia Tepa, président du club des investisseurs sénégalais, apprécie la transparence des autorités.
Ils ont été mis là pour nettoyer les écuries. Ce gouvernement a eu le courage d'expliquer que les choses vont être dures, très dures, mais l'espoir est devant et c'est ça qui est important.
Les discussions vont se poursuivre avec pour objectif de parvenir prochainement à un nouveau pacte de stabilité sociale. Gwendal Lavina, Dakar, RFI.
Des peaux, des queues, des crocs utilisés pour leur pouvoir mystique. En Côte d'Ivoire, le commerce de restes de lion ou de léopard persiste malgré son interdiction. Révélation d'une enquête de l'ONG de protection de la faune Panthera publiée au début du mois. Des produits issus de grands félins ont été découverts sur la moitié des 46 marchés visités dans tout le pays. Il serait en fait utilisé par les guérisseurs traditionnels qui les utilisent pour fabriquer des amulettes ou des ceintures réputées magiques. Sur un marché du sud d'Abidjan, le reportage de notre correspondant Benoît Almeras.
C'est un carré de peau au poil doré posé sur un étal discret. Les marchands le cachent sous des crânes de chauve-souris et les cuirs d'antilope.
C'est une peau de lion, hein, n'est-ce pas?
Ouais, c'est le lion qui est là. Ouais, on coupe ça 1000 francs, 2000, 3000.
Le peau de lion, quand on le trouve, on le divise, on le partage. Sinon, le complet ne trouve plus. Tout ça, ça a disparu.
La peau entière du lion se négocie autour d'1 million de francs CFA. Des restes transformés ensuite en gris-gris. Kassoum est chasseur d'oiseaux. Pour ce guérisseur, les grands prédateurs ont de grands pouvoirs.
Les lions, les panthères, les lions, ils ont plus de pouvoir plus que les autres animaux. Les gens ont besoin de leur peau pour que quand ils sortent dans la foule, dont les gens, ils ont peur, ils tremblent même.
Pour être craint.
Voilà.
La ville de Korogo, proche du Mali et du Burkina, serait l'un des carrefours de ce commerce. Maxime Kouadio travaille pour Eagle, une ONG de lutte contre le trafic d'animaux.
À Abidjan, il est difficile d'avoir des peaux. Il n'y a qu'à l'intérieur du pays qu'on constate encore qu'il y a des personnes qui s'adonnent à ce genre de pratiques. Mais ils sont beaucoup méfiants. S'ils se cachent actuellement, c'est qu'ils ont peur.
Le commerce des restes de lion ou de léopard est aujourd'hui passible de 10 à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Il est midi 48 à Abidjan. Anne Kantner, les grands titres de ce vendredi 28 février.
Des manifestations monstres en Grèce, plus de 350 000 personnes dans tout le pays selon la police. Réunis pour réclamer justice 2 ans après la pire catastrophe ferroviaire de l'histoire de la Grèce, 57 morts lors d'une collision entre 2 trains et beaucoup accusent depuis les autorités de vouloir dissimuler leurs responsabilités. Il y a eu des heurts entre les manifestants et la police à Athènes. Le Hamas appelle la communauté internationale à faire pression sur les autorités israéliennes afin qu'elles acceptent de prolonger la trêve à Gaza. Des discussions sont en cours au Caire alors que l'accord de cessez-le-feu signé en janvier doit expirer demain, samedi. Le président ukrainien, lui, se rend à Washington aujourd'hui où il doit rencontrer Donald Trump pour finaliser l'accord portant sur l'exploitation des minerais et des terres rares en Ukraine, considérés comme indispensables par Donald Trump afin d'arriver à un accord de paix pour la fin du conflit en Ukraine. Et puis au Royaume-Uni, la secrétaire d'État au développement démissionne. Elle proteste contre la décision du Premier ministre cette semaine de couper dans son budget. Keir Starmer a sacrifié l'aide internationale pour consacrer davantage d'argent à la défense. En Côte d'Ivoire, les douanes ont annoncé en début de semaine avoir découvert un réseau d'exportation frauduleuse de cacao. 6 conteneurs censés transporter de l'EVA étaient en fait remplis de 84 tonnes de cacao. Les contrôles sur la cargaison saisie se poursuivent. Quel est l'impact du trafic de cacao sur la filière? Séraphin Praoyao, maître de conférence en économie à l'université Alassane Ouattara de Boaké, spécialiste du cacao, est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Séraphin Praoyao.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
Du cacao exporté sous couvert de caoutchouc naturel, est-ce que c'est une pratique déjà vue parmi les trafiquants?
Bon, là, ça devient une pratique nouvelle, mais la situation est préoccupante puisque nous avons, en début d'année, surtout exactement le 14 janvier, le gouvernement a fait fort, a frappé fort en suspendant de leurs fonctions 5 hauts fonctionnaires, y compris même le préfet, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et nous avons enregistré à peu près pour la campagne 2023-2024, en moyenne, 150 000 tonnes de cacao ivoirien qui se sont dirigées vers le pays, frontalier de la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est nouveau, c'est que anciennement, ce que nous avons connu dans notre pays, c'est que ce trafic-là se déroulait entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ça veut dire que dans l'est et le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que vous prenez les pays, les villes comme Abouasso, Maféré, Noé, ce sont dans ces zones-là qu'on avait ce trafic entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Mais cette fois-ci-là, c'est une nouvelle pratique. Nous voyons que la contrebande s'est déplacée depuis l'est vers l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et je pense que les contrebandiers ne sont pas prêts à arrêter.
Alors, pour quel motif ce trafic se déplace-t-il vers l'ouest? Est-ce parce que le cacao s'achète dans les pays de la façade ouest beaucoup plus cher qu'il ne s'achète aujourd'hui au Ghana?
Exactement, exactement. La première cause, effectivement, de cette contrebande, c'est un peu la pauvreté. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il faut le dire, 24% de la population vivent du cacao et 80% des producteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, quand vous avez une telle situation et que à côté de vous, vous êtes une ville frontalière ou un village frontalier du Libéria ou de la Guinée où les prix se négocient aujourd'hui entre 4 000 et 5 000, alors qu'en Côte d'Ivoire, le brave paysan ne reçoit que 1 800 francs CFA. Vous voyez, le différentiel est énorme. Et quand à cela vous ajoutez l'appétit, effectivement, des grands trafiquants, même des hauts fonctionnaires, voyez-vous, pour un camion qui transporte 40 tonnes, un camion simplement, de corrompus reçoivent à peu près 15 millions de francs CFA. C'est énorme. J'ai fait un petit calcul. L'argent que perçoivent, tous les hauts fonctionnaires, tous ceux qui travaillent dans les coopératives, qui facilitent cette contrebande, ça tourne à peu près à 56 milliards de francs CFA pour la seule année, la seule campagne 2023-2024. Vous voyez que c'est énorme.
Il y a donc des complicités haut placées qui permettent ce trafic.
Exactement, il y a des complicités au sommet même de ceux qui doivent justement lutter contre ça. Vous savez que mon pays, la Côte d'Ivoire, le cacao représente à peu près 15% du PIB, 40% des recettes d'exportation et entre 10 et 12% des recettes fiscales. Donc, c'est-à-dire que l'État ivoirien compte beaucoup sur, effectivement, l'argent qui provient de ce secteur-là. Donc, il a mis en place, l'État ivoirien, un dispositif composé de gendarmes et de policiers qui luttent, effectivement, chaque jour contre ce trafic-là. Mais le 14 janvier, on a compris que parmi même ceux qui devraient lutter contre cette contrebande, il y a des complicités. Et à cela aussi, monsieur le journaliste, faut ajouter un peu aussi le différentiel et les systèmes de commercialisation. En Côte d'Ivoire et au Ghana, dans ces deux pays, le système de commercialisation est aux mains de l'État. Il est régulé. Et c'est ce qui fait que les prix ne sont pas indexés sur les prix internationaux. Or, quand les prix flambent sur les prix internationaux, dans les pays voisins comme le Libéria, le Togo et la Guinée, où les prix sont libéralisés, ben, les prix sont indexés sur les prix internationaux. Et donc, du coup, la rémunération du cacao, n'est-ce pas, est meilleure dans ces pays-là par rapport à la Côte d'Ivoire. Et donc, du coup, de façon structurelle, je pense que la contrebande va vraiment continuer. Voyez-vous ce que vous venez de dire aujourd'hui. Vous pouvez avoir un camion rempli, même peut-être de caoutchouc. Or, derrière, en bas de ce chargement-là, vous allez trouver du cacao. Donc, je pense que le gouvernement doit vraiment réfléchir profondément à cette situation, sinon que cela va jouer énormément sur les finances de l'État ivoirien.
Ça veut dire que la hausse des prix d'achat aux planteurs consentie par les autorités pour la nouvelle campagne cacao ne suffit pas du tout à enrayer la contrebande, en fait.
Ah non, ça ne suffit pas du tout. Ça ne suffit pas du tout parce que le prix que se pratique en Guinée ou au Libéria, je vous dis, c'est entre 4 000 francs CFA et 5 000 francs CFA. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il se vend à 1 800. Qu'est-ce que les contrebandiers font? Quand ils arrivent, ils disent aux braves paysans pour dire, voilà, l'État ivoirien vous achète le kilogramme à 1 800. Moi, je vous propose 2 500. Vous voyez ce que ça fait la différence? 500 francs CFA, c'est énorme. Et le système, il est vraiment huilé. Hein, il est vraiment huilé parce que pendant les périodes de soudure où les paysans ne savent même pas à quel sens se vouer, ces trafiquants-là viennent même prêter l'argent à ces braves paysans-là pour scolariser leurs enfants. Donc vous voyez que la situation n'est pas simple. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'État a mobilisé, a sorti quand même la grande artillerie avec l'opération Verrou 322 qui, pendant toute l'année, va lutter vraiment contre cette contrebande, mais il y a des problèmes structurels auxquels il faut vraiment s'attaquer.
Vous l'avez dit, du cacao qui quitte la Côte d'Ivoire illégalement, c'est aussi moins de rentrées fiscales pour l'État. Est-ce qu'on a une idée du manque à gagner?
Oui, exactement. On chiffre à peu près à 400 millions d'euros, donc 350 milliards de francs CFA de manque à gagner pour l'État pour la seule campagne 2023-2024. Vous voyez que c'est énorme pour les caisses de l'État, un pays quand même qui compte beaucoup sur le café cacao pour ses caisses.
Merci Séraphin Praoyao. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Des prix plafonnés le temps du ramadan sur les marchés guinéens. Viande, farine, riz, une dizaine de produits seront subventionnés par l'État et leurs prix encadrés pendant cette période où la consommation des denrées alimentaires augmente. Reste la difficulté de faire respecter ces tarifs. Les douanes guinéennes annoncent des contrôles. À Conakry, le reportage d'Alexis Bédu.
Sac de riz blanc, 290 000 francs guinéens, 50 kilos de farine à 350 000 et carton de poulet entier à 210 000 francs. Dans les marchés de Conakry, les prix de certains produits vont baisser jusqu'à la fin du mois de juin grâce à un effort financier de l'État, rappelle le directeur du commerce intérieur et de la concurrence, Mohamed Traoré.
L'État perd jusqu'à 67 millions de dollars parce qu'il renonce à ses droits sur effectivement l'importation de ces denrées. Donc aujourd'hui, en tant que directeur national du commerce, nous voulons nous rassurer que ces efforts de l'État se répercutent sur les prix pratiqués sur le marché pour que le client final puisse effectivement être soulagé.
Problème, ces prix plafonnés ne sont pas toujours respectés par certains commerçants qui profitent de la baisse chez les grossistes sans la répercuter sur leurs étals aux dépens des consommateurs. Selon le colonel Cheikh Gadiri Conté, directeur général par intérim des douanes, les contrôles seront renforcés.
Il y a encore des personnes de mauvaise volonté, des personnes qui, ma foi, prennent ces produits subventionnés, les envoient soit en dehors de la Guinée, où ils font des spéculations sur ces produits sur le marché intérieur. Ces personnes de mauvaise foi, nous allons partir en guerre contre eux. J'irai faire une note de service pour envoyer à tous les services douaniers provinciaux pour qu'ils redoublent d'ardeur, qu'ils redoublent de vigilance afin que ces produits-là partent à la destination et aux destinataires privilégiés, le marché de la Guinée et surtout les consommateurs guinéens.
Un plafonnement qui n'est pas le même que vous habitiez à Conakry ou dans le reste du pays où les prix de vente varient selon le transport. Injuste selon Mbani Sidibé, président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée qui n'est pas satisfait du protocole d'accord.
Il y a des prix discriminatoires. Il y a le prix du Grand Conakry et le prix de l'intérieur. Quand l'État renonce, il devait faire de telle sorte que le prix soit uniforme sur tout l'état du territoire national. Tous les consommateurs guinéens devaient bénéficier du même prix. Si déjà les consommateurs de Conakry sont supérieurs aux consommateurs de l'intérieur, ça veut dire que c'est grave.
Pour éviter un trop grand décalage entre les différentes localités, l'association de consommateurs demande à l'État de retravailler sur les marges de distribution et pas seulement sur celles des recettes douanières. Alexis Bédu, de retour de Conakry, RFI.
Et c'est à Conakry que se referme cette demi-heure africaine réalisée, préparée avec Laurent Chaffard, Karine Franck, Aurèle Charlieu et Pierre Vallée. Merci à eux. Et merci à vous de nous avoir suivis.
À lundi, Nicolas Sûr. Vous restez sur notre antenne, on se retrouve dans un peu plus d'une minute pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Vous le savez, si vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous pouvez écouter une demi-heure d'informations en full day ou bien en portugais si vous vous trouvez en Afrique lusophone. A tout de suite.
Musique du monde, Laurence Alloire.
C'est en Éthiopie que nous allons vagabonder avec le violoniste français Théo Sekaldi qui présente Marda, le nouvel album de Koutou. Koutou est un groupe qu'il a formé avec la chanteuse éthiopienne Ewan Gebrewald. Alors Théo, en mode DJ Selector, en profitera pour nous faire découvrir les artistes que l'on joue aujourd'hui dans les clubs d'Addis Abeba.
Musique du monde, Laurence Alloire.
Samedi, à partir de 20h10 TU.
RFI. Religion du monde,
Véronique Guémard.
Invité exceptionnel dans cette émission consacrée à l'Ukraine après 3 ans de guerre, le métropolite Emmanuel de Chalcédoine du patriarcat œcuménique de Constantinople, premier siège ecclésial de l'Église orthodoxe. Nous évoquons la question complexe des églises orthodoxes dans la guerre et de l'unité des églises.
Religion du monde avec Véronique Guémard.
Dimanche à partir de 10h10 TU.
RFI.
Ce dimanche, sur RFI, idée, Pierre-Édouard Deldic.
L'insurrection des particularités, c'est le titre du dernier livre en date de la philosophe Chantal Delsol. Le remplacement de la lutte des classes par le conflit des identités traduit le nombrilisme présent, écrit-elle. Nous en parlons dans une nouvelle conversation.
Pierre-Édouard Deldic avec idée, tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI et à tout moment sur RFI.fr ou sur votre application de podcast.